Vous allez bien? Ça va? Il y a la faim, la fatigue, la fin de la journée? Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais moi j'ai l'impression que 24 heures dans une journée, ce n'est pas suffisant. 24 heures, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait peut-être même 36 heures. Mais bon, je pense que si on met 36 heures, on augmenterait notre temps de travail aussi en fonction, mais pas notre temps de repos. Et je pensais par exemple, disons, dans une journée, en fait, il se passe tellement de choses que 24 heures, c'est vraiment pas suffisant. Quand on se lève le matin, on prend le temps de prier. Et puis, pour ceux qui ont des enfants, on doit réveiller l'enfant, lui donner le petit déjeuner, le préparer, faire sa toilette, ensuite préparer le goûter s'il faut le goûter, ensuite nous-mêmes faire notre propre toilette, ensuite manger le petit-déj, ensuite aller au travail, et ensuite, une fois qu'on revient du travail, rebelote, on arrive, on reprépare le petit, la douche, remanger, l'histoire, culte familial, on prie ensemble, et une fois qu'on a un peu de temps, on essaie de l'user pour nous, mais finalement, on finit par dormir tellement on est fatigué. Et ça, pendant à peu près 5 jours. Et c'est un peu notre système, comment on peut marcher ici, dans notre culture un peu occidentale, où en fait, on court après le temps et 24 heures, ce n'est pas suffisant. Donc en fait, des fois, on choisit d'aller au plus efficace, mais on oublie parfois en fait juste de prendre le temps. Moi, je cours tellement qu'en fait, j'apprécie chaque moment où je m'ennuie, ce qui est exactement vraiment très rare. Mais chaque moment où je sens que je peux me poser et juste en fait regarder, contempler, je suis extrêmement content. Et ce soir, je voudrais qu'on prenne le temps justement que l'on a pour en fait parler de la création. Je vous propose ce soir, en fait, vous savez, j'aime pas trop les randonnées, moi. Je sais pas, y a-t-il des amateurs de randonnées ici? Vous pouvez lever la main, 1, 2, 3, 4, waouh, ok. Parce que pour moi, le principe de la randonnée, c'est je marche et je me fatigue. Voilà. Donc, je n'ai toujours pas compris le concept. Mais j'accepte de le faire quand les jeunes ils me disent « Allez, rando, on y va !» J'ai réfléchi à 3 fois, mais j'ai fini quand même par y aller. Je me dis « C'est bien pour mon corps, ça purifie, il y a de l'air frais, etc. » Il y a les paysages. Et on galère, mais en fait, je pense que pour les personnes que j'avais sondées, pour ceux qui aiment la randonnée, ils me disent « Mais il y a tellement des paysages fantastiques et énormes. » Et puis, c'est vrai que quand je me force au début, je fais ma randonnée, puis je partage avec les copains, je partage et puis je vois et je fais « Regarde ce paysage !» Je fais « Ouais, quand même, ça vaut quand même le coup. » Et c'est un peu ça, un peu la parole de Dieu quand on regarde dedans. Des fois, quand on se dit « Bon, il faut méditer la parole de Dieu, il faut lire la Bible. » Ouais. Mais une fois qu'on est dedans, en fait, des fois, on va lire pour lire. Mais quand on prend sous le principe même de la randonnée, on va prendre le temps de la lire, on va découvrir les merveilles de Dieu. Et je vous propose ensemble ce soir de faire une sorte de randonnée. Vous allez être assis sur vos chaises. C'est une drôle de randonnée, pourquoi pas. Mais que quand du coup on va lire la parole de Dieu, justement, de se faire un peu ce film où en fait on va découvrir le paysage que Dieu veut nous dire. Et ce paysage, c'est la création de Dieu. Donc je vous invite en fait à lire dans Genèse au chapitre 1er. Et on va lire tout le chapitre 1er et 3 premiers versets du chapitre 2. À chaque moment que, en fait, on va lire chaque étape de la création de Dieu, juste d'imaginer tout ce que Dieu a fait. Et vous allez voir, ça a 2 effets. Soit on dort, soit on est admiratif. Soit l'esprit vagabonde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit « Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et Dieu fit étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur ta terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Encore vivant? Ça va? Vous suivez? On n'est qu'au quatrième jour. Encore trois jours. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux voient sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. J'ai pour habitude de poser le contexte, mais là, le contexte est un peu difficile parce qu'en fait, c'est épisode 1. Donc, il n'y a pas vraiment d'introduction. Nous sommes à la création. Et la création, quand on en parle, nous qui sommes croyants, nous croyons qu'il y a un Dieu créateur. Mais souvent, quand on parle de l'origine du monde, on a un grand débat entre la théorie de l'évolution et ceux qui sont partisans de la théorie, et puis ceux qui sont plutôt créationnistes, donc ceux qui croient qu'il y a une force, un auteur qui aurait mis en fait ce monde. Au sein même de ceux qui sont créationnistes, là surtout partant du texte de la Genèse, on a des théologiens et des gens qui ont apporté différentes interprétations. Par exemple, il y a des débats sur jour 1, jour 2, jour 3. Alors, est-ce que c'est des jours de 24 heures? Est-ce que c'est plutôt des jours qui voudraient plutôt dire des périodes, des longues durées? Et on essaie d'expliquer un petit peu Genèse 1, un petit peu de manière chronologique, avec ces jours de 24 heures, jours, un peu périodes, et puis d'autres théories, d'autres interprétations. Et j'aimerais juste un petit peu introduire mon message avec cette dernière interprétation, en fait. C'est un théologien, je trouve ça très intéressant. C'est une interprétation, je ne sais pas si on vous l'a énoncé un jour, si vous l'avez entendu, c'est l'interprétation des cadres. Je vais vous expliquer en fait en quoi consiste cette interprétation. Dieu aurait utilisé Moïse, parce que Moïse est l'auteur du Pentateuque, de la Torah, donc de la Genèse, le premier livre que l'on a lu. Et en décrivant la création, il aurait utilisé des figures littéraires pour utiliser, par exemple, les trois premiers jours pour poser le cadre, et puis les trois derniers jours pour remplir ce cadre-là. Si vous avez bien suivi le film, le jour numéro 1, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la lumière des ténèbres. Par symétrie, le jour 4, il a rempli la lumière par les luminaires, le soleil, et les ténèbres par le plus petit luminaire et les étoiles. Quand on regarde, par exemple, aussi le jour numéro 2, il a séparé le ciel avec la mer. Il a rempli au jour 5, par symétrie, donc, le ciel par les oiseaux et la mer par les poissons. Le jour 6, quand il a séparé les mers donc de la terre, il a rempli la terre avec les hommes, parce que du coup, il a parlé de toute façon de la mer avant, donc il n'y a plus besoin de remplir. Et cette interprétation est très intéressante parce que quand on va sur les débats un petit peu sur « alors c'est des jours 24 heures » où on essaie de dire que c'est chronologique, bien des gens qui sont pas forcément chrétiens ou alors même qui sont chrétiens vont dire « mais votre livre, il est faux parce que comment, par exemple, au jour numéro 4, Dieu a placé un soleil, mais c'était quoi la lumière d'avant alors qu'il était dans le jour 1 ?» Ou alors, on pourrait trouver différentes contradictions et en fait, ils disent « mais non, mais votre livre, il est faux. » Et cette interprétation du cadre littéraire, là où on pose en fait un cadre et qu'on le remplit, en fait, enlèverait tout cet obstacle, on va dire, de chronologique, juste pour montrer un but bien particulier. Mais quel est ce but? Pourquoi Moïse aurait-il écrit le récit de la Genèse? Pourquoi Moïse aurait écrit, en fait, la création? Nous, on est là, on lit premièrement, et puis, finalement, quand on lit, souvent, on va passer vite, parce que du coup, on dit, bon, ben, ok, jour 1, Dieu, il a créé, Dieu, il a créé, Dieu, il a fait, Dieu, il a fait, Dieu, il a fait, Dieu, il a créé. Et jour 6, ça nous intéresse parce que ça parle enfin de nous. Il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Le but de tout cela, en fait, c'était de montrer qu'il y avait un Dieu créateur. Et pour aller un peu plus loin, parce que là, je reste un peu dans le domaine un petit peu intellectuel, il y a un ordre aussi un peu pratique, en fait. Et pour un peu saisir ce côté pratique, il faut un peu avoir... je vais dire tout le Pentateuque, et puis même après, du coup, plus tard avec nous ici, on va dire tout le contexte de toute la Bible. Et vous allez voir un petit peu, on va faire un peu cet exercice ce soir. J'espère que vos cerveaux ne vont pas trop fumer. Seigneur, viens nous aider. Et j'aurais juste pu lire en fait Genèse 2, chapitre 2, versets 1 à 3. En disant « Dieu, il a fait la création, c'était très bon, et puis Dieu se reposa. » Mais si le but était de montrer et de révéler un Dieu créateur, dans le chapitre 2, non, au chapitre 30, au verset 20-31, pour le jour numéro 7, la Bible dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. On passe au septième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. L'auteur de celui qui a mis en place, enfin celui qui a construit l'interprétation du cadre littéraire, celui qu'on vient juste de décrire, a aussi pour but en fait de montrer la... C'est un bien gros mot, mais en fait finalement, prenez-le juste de manière logique, la théologie du sabbat. Vous savez tous comme moi, c'est assez basique, c'est même dans la culture générale, le septième jour, c'est le sabbat, c'est le jour du repos, Dieu l'a instauré. Il est d'ailleurs même mentionné dans les commandements de Moïse plus tard, dans Exode, quand il a donné, après la libération du peuple hébreu. Et vous savez, le sabbat était même repris dans le Nouveau Testament. Et quand on parle de sabbat, on parle souvent du repos. Et moi, je veux parler de la pratique du sabbat. Tout à l'heure, je vous ai mentionné toute une activité que 24 heures ne pouvait pas contenir. Toutes nos activités qu'on peut faire par habitude, toutes les choses que l'on peut faire pour Dieu ou même pas pour Dieu. Et qu'en fait, au début, on est à fond, mais qu'au final, en fait, on en perd tout le sens et qu'on fait finalement sans plus trop savoir pourquoi. C'est pour ça que j'ai pris le temps de lire tout le chapitre 1 pour qu'on prenne vraiment le temps, en fait, finalement, de contempler chaque moment où Dieu a placé, chaque moment où Dieu a séparé la lumière des ténèbres, le ciel et la mer, la terre et la mer, et là où il les a remplis avec toute la création, toutes les créatures. Parce que je pense que dans notre temps, il est bon de prendre aussi un moment où en fait on se repose, mais pas se reposer dans le sens physique, même s'il faut le faire. Mais quand on prend le temps avec Dieu, quand on prie, quand on dit que par exemple je vais prendre mon culte personnel, quand je vais au culte du matin, quand je vais finalement aussi aux réunions de prière, et à tout moment où j'ai pris ce rendez-vous avec Dieu, personnellement ou dans la communauté, je considère vraiment qu'il y a Dieu dedans. Que Dieu est vraiment là. Et que je commence à contempler et que je ne parle pas juste pour parler, que je ne prie pas juste pour prier, que je ne serve pas Dieu juste parce qu'il faut servir, que je ne chante pas juste parce qu'il faut chanter, qu'il y a des paroles derrière. Mais parce que derrière, il y a Dieu qui est là. Et qu'on ne dise pas juste, en fait, quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et que quand on se rassemble, qu'il est doux et qu'il est bon pour des frères de se rassembler, de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, que ce soit juste pas des paroles. Mais que lorsqu'on prend le temps de le lire, c'est de dire c'est vrai. Peut-être que si je vais pas à la réunion, voir mes frères, mes sœurs, peut-être que je vais rater quelque chose. Et puis, c'est bien quand il y a Dieu là, dans la communion fraternelle. Et que quand on prend le temps de chanter les paroles que l'on chante, Dieu est grand. Et je bénis Luc Dumont pour des paroles si simples. Tu es grand Seigneur. Pas grand chose, tout simple. Pas une super poésie, mais tellement percutant. Tu es grand Seigneur. Quand je contemple, quand je prends le temps de contempler la création, Seigneur, tu es grand, merveilleux, digne de louange, extraordinaire. Et notre piège du 21e siècle, même je pense de tout temps, avec tout ce qu'on a en tant que loisir, même en tant qu'activité, qui n'est pas forcément du loisir, on court après le temps et on ne s'arrête pas. Et on croit que Dieu nous dit ça, ou on croit que... Mais c'est comme si un peu nos dialogues un petit peu, et on parle juste parce qu'il faut parler, mais finalement on s'entend pas, on s'écoute pas, on répond à côté. Et c'est pas une vraie conversation constructive. Et quand on est face à Dieu, Seigneur, merci, dadadi, dadada, bénis cette journée extraordinaire, je te prie pour cette journée, qu'il se passe bien, que mes collègues de boulot soient bénis, et puis amen, et puis on s'en va. Et que ça devient juste en fait du « je fais pour faire » et pas une vraie relation dans le sens où je m'assois juste et je dis « Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci d'avoir veillé sur ma nuit. » Notre piège, c'est d'être comme les pharisiens. Vous savez, le pharisien du premier siècle, il est toujours là. il n'est pas si loin que ça de nous. Mais c'est parce qu'à la force de l'habitude, en fait, on ne voit pas les choses, on ne considère plus les mêmes choses, on prend les choses par habitude. Les habitudes, c'est super bien. Mais il faut aussi que dans nos habitudes, on soit... Alors c'est un nouveau mot que j'aime bien aussi, ce temps-ci, c'est qu'on soit intentionnel. Que si je suis là pour la réunion de prière, pour chanter, louer Dieu, même si je n'ai pas envie, je suis un adulte avec le libre arbitre et que ce n'est pas mes émotions qui me dictent ou ma fatigue, je prends la décision de chanter de tout mon cœur. Pourquoi ? Par religion ? Par tradition ? Par superstition ? Non. Parce que je crois au fond de moi que je suis en train de dire à Dieu, j'ai foi en toi quand je ne suis pas bien, mais que je chante ta grandeur. Je crois fortement en moi ta parole lorsqu'elle dit, quand je suis dans la détresse, je m'écris loué soit l'Éternel et tu me délivres de mes angoisses. Je crois à ce Dieu que quand je lis et que je prends le temps de méditer la parole de Dieu, qu'il y ait des stratégies un peu bizarres que Dieu utilise, qui sont en dehors de ma logique, de mon raisonnement, mais que je n'ai pas besoin forcément de comprendre, mais que j'ai juste besoin de faire confiance en mon Dieu. Les pronostics sont pas bons, c'est pas grave, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai mis le facteur Dieu dans mon affaire. J'ai considéré Dieu dans toutes mes situations, bonnes comme mauvaises. Quand je pars en vacances, Dieu est avec moi. Quand je prie, Dieu est avec moi. Quand je combats, Dieu est avec moi. Je ne peux pas tout maîtriser. Et c'est en ça qu'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas tout faire. J'ai des compétences, j'ai des qualités, mais je dois prendre en compte le facteur Dieu. Vous savez, Dieu nous rappelle souvent on parle des choses un peu basiques de la Bible. Je n'ai pas forcément envie d'être super théologien et de pousser trop loin, parce que j'ai envie d'être plutôt pratique dans notre vie, parce que c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours. On n'essaye pas d'avoir une tête grande comme ça. Pourtant, j'aime être théologien. Mais je veux aussi que ma tête soit aussi grosse que mon cœur, ou alors que mon cœur soit aussi gros que ma tête, et que je puisse mettre en pratique tout ce que j'ai assimilé de manière intellectuelle. Parce qu'on sait beaucoup de choses. On sait qu'il faut prier, on sait qu'il faut aimer, on sait qu'il faut faire plein de choses, qu'il faut servir Dieu. Mais si dans cela, on perd l'essence même de pourquoi on fait les choses, par amour pour Dieu, alors à quoi cela sert-il ? C'est un peu d'ailleurs ce que reprend Paul quand il dit « Quand bien même je parlerai les langues des anges, quand bien même je prophétiserai, quand bien même je donnerai tout plein de choses aux pauvres, qu'est-ce que cela si je n'ai pas l'amour ? Qu'est-ce que cela si je ne comprends pas pourquoi je le fais ? Si je n'ai pas l'amour de Dieu ? Si ma motivation première, ce n'est pas l'amour de Dieu ? Parce que Dieu m'a aimé, alors je veux témoigner de son amour pour mon prochain. C'est pour ça que je m'efforce, moi, personnellement, à essayer, dans mon emploi du temps, à peu près, à prendre un moment pour moi où juste, en fait, je contemple. C'est ça, mon sabbat. C'est ça, mon jour du repos. C'est pas de dire, en fait, je vais juste dire pendant 24 heures, ne m'appelez pas, ne me sollicitez pas, je ne suis pas là. C'est pas faire comme les pharisiens et les religieux de l'époque, de dire, mais tes disciples, ils travaillent le jour du sabbat. Mais toi, encore pire, tu fais des miracles le jour du sabbat. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas quelle réaction vous avez eue quand vous avez lu les pharisiens qui voient des prodiges et des miracles, comme si d'ailleurs ça se produisait genre normal, mais qui voient Jésus faire un miracle le jour du sabbat. La seule chose qu'ils retiennent, ce n'est pas le miracle, c'est qu'il a fait le jour du sabbat. Mais quel gros péché ! Mais c'est énorme ça. Et parfois on est un peu comme ça en fait, parce que, vous savez, le jour du repos, c'est la contemplation de Dieu. Et on pourrait passer tellement de temps. Et j'ai pas envie de nous offenser, mais notre culture nous y invite à nourrir le pessimisme, à nourrir nos problèmes et à dire, mais oh, ma situation, elle est compliquée. Il est dur ce combat. Et en fait, on ressasse ça. Déjà, on le nourrit nous-mêmes pour nous-mêmes. Ensuite, parce que la Bible nous invite, et c'est vrai, on nourrit Dieu de nos problèmes. Et ensuite, on va nourrir les copains de nos problèmes. Et en fait, on n'en trouve pas le bout. Et finalement, au lieu de dire, ouais, bon, ben, je suis grand, je suis adulte, j'ai Dieu avec moi, mais finalement, je décide de détourner mon regard du problème pour finalement, en fait, arriver à dire, ben, j'ai un grand Dieu. Il y a une citation que j'aime énormément, je la retiens et je peux enfin la citer. Elle dit, quelqu'un disait, arrête de dire à Dieu à quel point tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes à quel point Dieu est encore beaucoup plus grand. Et nous, on est là à grossir le problème, à grossir le problème, alors qu'en fait, on a un si grand Dieu. Et quand je prends le temps de contempler Dieu, déjà au travers de la création, c'est pour ça qu'on a pris le temps de lire Genèse 1. Seigneur, mais c'est incroyable d'avoir fait tout ce que tu as fait, d'avoir créé, d'avoir mis la lumière, le soleil à la bonne distance, les étoiles qui brillent dans la nuit, ce paysage, tout a été fait. Les 6 jours de la création, on va dire les 5 jours de la création, ont posé le cadre et le dernier jour, Dieu il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a placé l'homme. Toutes les choses ont été faites pour l'objet aimé de Dieu, l'homme et la femme. La nourriture, les poissons, le ciel, tout, tout a été fait pour lui, par amour pour lui. Incroyable de dire que nous sommes voulus de Dieu, qui nous a tellement voulu, qui nous a créés à son image, pour être en relation avec nous. Encore beaucoup plus dans nos problèmes, lorsque l'on réfléchit à l'œuvre de la croix. Il nous a tellement aimés que si on réfléchit encore à toute la Bible, au lieu de dire « Jésus, il a fait un miracle le jour du sabbat. » Non, Jésus, il a fait un grand miracle et c'est incroyable. Encore beaucoup plus, il a fait le jour du sabbat, le moment opportun pour contempler son miracle. Et que lorsqu'on a un problème, c'est peut-être mieux de méditer sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Où est-ce qu'il est venu nous chercher ? Tous les prodiges, les miracles, les bénédictions qu'il nous a accordées, à quel point il a été grand et à quel point Dieu est avec nous. Notre frère l'a raconté. Il était dans le tramway, il ne s'attendait pas et puis il y a un homme qui arrive et qui lui parle comme ça. Incroyable! Incroyable! À quel point Dieu a été fidèle. Si Dieu a été fidèle pendant tout ce temps-là, pourquoi ne le serait-il pas encore à mon problème présent? Alors je dis à mon problème, mon Dieu est plus grand que toi. Et troisième raison pour laquelle on prend le temps de contempler l'œuvre et on prend le temps de méditer, on prend le temps de lire la parole de Dieu, c'est parce qu'on vit en espérance. Souvent nous sommes attachés, enfin je ne vais pas dire souvent en fait, mais parfois, on est attaché en fait aux choses de la terre et certains de nos problèmes sont souvent liés à du matériel. C'est normal, on vit sur la terre, on a les pieds sur terre. Et parfois, l'équilibre entre être attaché aux choses de la terre et être attaché aux choses d'en haut est un peu bancal. Mais la Bible nous parle, les choses que l'on a sur la terre sont passagères. Et au travers de l'œuvre de la création, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de l'œuvre de Dieu, Dieu nous invite non pas à regarder les choses sur la terre, mais à dire ta souffrance actuelle, tes tribulations, tout ce que tu peux vivre de difficile sur la terre, parce qu'on en vit, et la Bible ne le cache pas. Elle le dit, vous aurez des tribulations, Mais prenez courage, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai vaincu le monde. Le Dieu de victoire habite en moi. Mais je ne comprends pas. C'est quoi le Dieu de victoire? Je suis en train de vivre une défaite en ce moment. Je suis renvoyé. Je manque d'argent. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je ne comprends pas. Je ne vis pas vraiment la victoire. Mais la victoire, elle est là-haut. Moi, si mon collègue, et que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous nos collègues qui ne connaissent pas Dieu, m'offense, ça fait mal. Mais quand je pense que lui, à la fin, au bout du compte, il est perdu, alors que moi, une fois que je serai plus sur cette terre, je serai dans l'éternité avec mon Dieu, je ne peux que prier pour lui et dire, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Et c'est ce que Jésus a fait. Les souffrances qu'il a vécues à la croix, le rejet qu'il a eu par son propre peuple, ça lui a fait mal. Mais ce qui lui a fait le plus mal et qui l'a poussé à prier ainsi sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La chose la plus importante, c'est ce qui se passe, c'est notre espérance dans le ciel. L'œuvre de Dieu est parfaite, et parfois on ne la comprend pas. Mais qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, je veux dire, c'est peut-être des fois un peu secondaire. Mais est-ce qu'on veut la comprendre? Est-ce qu'on veut connaître le Père? Est-ce qu'on veut prendre le temps dans nos activités de connaître le Père? Vous savez, souvent, on fait ce piège parce que c'est normal dans notre vie de tous les jours. On travaille, on gagne en expérience, on acquiert des compétences, du savoir-faire, du savoir-être, du être-savoir. En fait, je ne sais plus c'était quoi le dernier, qu'importe. Et en fait, on acquiert tout ça et en fait, on arrive avec notre bagage de compétences et de savoir face à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Et parfois, on fait ce transfert aussi dans l'Église et on se dit, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je marche avec Dieu. Ça fait même 20 ans que je marche avec Dieu. Moi, je le connais depuis tout petit. Et en fait, on ne croit pas que le pharisien, il est juste à côté de nous, en fait. Et qu'on a fini peut-être par faire les choses plus par rituel. Et on a oublié l'essence même. Et qu'au bout d'un moment, on arrive à se fâcher, et même au bout de 20 ans, et à se dire, mais je ne comprends pas, ça fait 20 ans que je marche avec Dieu et j'ai toujours des problèmes. Mais ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas vraiment compris la parole de Dieu. Et qu'en fait, finalement, comme j'ai dit la dernière fois, on va plus chercher la main de Dieu, les bénédictions de Dieu, parce que ça m'intéresse, ça me parle. Donc du coup, je vais plus être attentif que je vais vouloir connaître le Père. J'aimerais nous encourager à nous rappeler de tout cela. On va prendre un temps où on va prier. Et que cette fois-ci, en fait, on prenne un peu toute cette considération et de dire... Vous savez, un peu comme David quand il est venu face à Goliath. David, vous connaissez un peu l'histoire, c'est assez connu. David, il est un peu chétif, tout petit, c'est le dernier de la famille, d'une très grande fratrie, et puis méprisé par sa famille. Donc il vient devant Goliath. Et puis, la chose que je pense que vous retenez, c'est « Moi, je viens au nom de l'Éternel », c'est ça ? Moi, je retiens un petit peu la partie juste avant, ou peut-être un peu juste après, où il dit « Oui, mais... quand la brebis était dans la gueule du lion, de l'ours, etc., les animaux, ben moi j'étais là, j'ai ouvert la gueule du lion, j'ai terrassé l'ours. Ouais, ok. » Et dans cette attitude-là, avec tout ce que Dieu avait accompli avec lui, en collaboration, il est venu face à Goliath. Et ce soir, alors qu'on va prier, intercéder, j'aimerais qu'on prenne le temps, d'ailleurs même quand on a nos problèmes, j'aimerais qu'on prenne le temps justement de repenser à toutes ces choses que Dieu a fait dans notre vie, tous les témoignages qu'on a entendus, vécus, ici même depuis qu'on marche avec Dieu, et de dire, Seigneur, c'est vrai, tu as fait ça dans ma vie, tu as fait ça dans ma vie, tu as fait ça dans ma vie. Ben Seigneur, et ça booste la foi. Ouais, et Seigneur, tu vas le faire pour elle, tu vas le faire pour lui, et Seigneur, pour ta gloire, cancer, pff, que dalle, Dieu est plus grand que ça. Quoi, mort, pff, Dieu va ressusciter, alléluia. Quoi, paralytique, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, il se lève de sa chaise roulante. On le chante, je veux le vivre, je veux qu'on les voit. Tout autant que nous sommes, repensons à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu lorsqu'il a créé tout ça. C'est énorme. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole qui décrit qui tu es et ce que tu as fait et ce que tu veux faire avec notre aide. C'est pas merveilleux de dire l'œuvre de Dieu est grande et on en fait partie. On en fait partie en priant. On participe à la gloire de Dieu en priant. On participe à la gloire de Dieu avec nos faibles notes, notre faible voix. On participe à l'œuvre de Dieu alors qu'on va s'occuper des enfants, alors qu'on va juste dire 3-4 mots, alors qu'on va juste être sur le tramway et que Dieu va nous emmener des gens, des personnes pour les accueillir. C'est pas incroyable ça? Dieu qui est grand se sert de nous dans son œuvre qui est grande. Si un jour il pouvait y avoir un livre, je pense que ça va être écrit peut-être dans le ciel. On aurait marqué, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Et Dieu a fait ça au travers de ses frères, de ses sœurs. Incroyable, fantastique. Vous voulez pas faire partie de cette histoire-là? Là où on croit que c'est condamné? Et de dire, mais mon Dieu, il est grand. Et de dire, waouh, extraordinaire. Le réveil dans nos cœurs. Le réveil à Toulouse-Ouest. Le réveil à Toulouse, le réveil en France. Seigneur, tu connais mes problèmes. Je n'ai pas le cœur à combattre. Mais Seigneur, je veux décider de faire confiance à celui qui est mon Dieu. Encore mieux, à celui qui est mon Père. Quand bien même mon raisonnement me dirait que tu m'abandonnerais, moi, je décide de croire en toi. Prenons le temps de prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier. Te remercier pour tout ce que tu fais. Te remercier pour ta grandeur, à quel point tu es merveilleux. Seigneur Jésus, je veux te prier. Seigneur, afin que j'arrête de nourrir tous mes problèmes, tous mes soucis, tous mes manques, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, toutes ces choses qui polluent ma tête, mon cerveau, mes pensées. Mais Seigneur, je veux me nourrir de ta grandeur, de qui tu es, de ton amour, de ta consolation. Seigneur Jésus, je veux me nourrir de l'œuvre de la croix. Parce que Seigneur mon Dieu, lorsque je prends la Sainte-Seine, ce pain et ce vin, je ne veux pas être de manière religieuse, les prendre juste comme ça, ou par superstition. Mais Seigneur, je veux me rappeler l'œuvre de la croix, le privilège que j'ai d'être enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je veux me souvenir que j'ai la vie éternelle, que tu as fait de moi un enfant de Dieu parce que tu es venu à ma rencontre. Alors de même, ce privilège que j'ai, Seigneur mon Dieu, je veux le partager tout autour de moi, Seigneur mon Dieu. Alors je t'en supplie, je veux bannir la crainte, je veux bannir la timidité. Seigneur mon Dieu, glorifie-toi au milieu de nous, que le Saint-Esprit passe au milieu de nous, que l'action de Dieu se passe, Seigneur mon Dieu, chaque fois que nous nous rassemblons, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des renouveaux dans le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, des guérisons, des prodiges, des miracles, Seigneur mon Dieu. Et c'est pas que dans la Bible, Seigneur mon Dieu. Nous voulons voir les sourds entendre, ceux qui ont des maladies difficiles, Seigneur mon Dieu, et incurables sur le plan de la médecine. Eh ben, Seigneur Jésus, tu guéris, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour la grandeur de ton nom. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, que nous soyons cette église réveillée, mais qui aussi prend le temps de contempler les merveilles et les œuvres que tu as faites, Seigneur mon Dieu. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce et ta compassion. Au nom de Jésus, amen.